J. Le mariage de chiffon, chapitre 14. Où est donc passé l'oncle Marc ? Demanda Chiffon en entrant le soir dans le salon quelques minutes avant l'arrivée des invités. Je l'ai cherché partout, il n'est nulle part. Tu sais bien qu'il se terre ce soir, dit le marquis. Qu'est-ce que tu lui veux ?
Je veux lui montrer ma robe. Il ne m'a vu dedans que le jour.
Et dame, le soir, je suis si tellement mieux.
Tu la lui montreras une autre fois. Il est grincheux ce soir.
Et il ajouta en riant.
Il paraît que tout le monde a ses nerfs aujourd'hui.
Oui, dit Corise. À dîner, j'ai bien vu qu'il était tout chose.
Qu'est-ce qu'il a, que tu crois ?
Il a un mauvais caractère, déclara la marquise.
Oh ! Protesta Chiffon avec vivacité. Ça jamais !
Puis, revenant à son idée. Je vais encore le chercher.
Mais non, fit madame Debray avec humeur. Reste ici, on va commencer à arriver.
La gaie frimousse de la petite s'assombrit.
Ah, mon Dieu, c'est vrai, il est 10 heures. Qu'est-ce qui va arriver, les premiers ? Je parie que c'est les plus embêtants de tous.
Pas d'atras, quand je le disais, c'est les Bassigny. C'était en effet madame de Bassigny, très serrée dans une éclatante robe argentée. Suivie du colonel, sanglée aussi dans un uniforme un peu étroit, qui remontait, barrant le dos d'un grand pli à la hauteur des épaules. Madame de Bassigny sembla vexée d'arriver la première. Elle ne trouvait pas sa chic et rejeta cette faute d'élégance sur le colonel. Puis, d'un ton pointu, elle demanda à Corise si sa discussion politique de la veille ne l'avait pas empêchée de dormir. La petite répondit qu'elle avait un si excellent sommeil qu'elle dormait toujours, même après les plus embêtantes soirées. Et les arrivants interrompirent la conversation qui tournait allègre. Le petit Barfleur entra, collé aux jupes de sa mère et visiblement inquiet des suites de sa déclaration. Il s'avouait que vraiment il l'avait fait un peu trop à la passion et n'était pas resté dans la note. L'accueil indifférent de Chiffon, qui semblait ne se souvenir de rien, le rassura tout à fait et il reprit vite son bel aplomb, allant, venant, caquetant à tort et à travers, et remplissant les salons de sa papillonnante et minuscule personne. L'entrée du comte d'Axen lui fit l'effet d'une douche. Il commença par l'examiner avec un grand respect, ému en quelque sorte par la présence d'un prince pour de bon. Mais bientôt, il oublia le prince et ne vit plus que le rival. La venue de ce petit bonhomme, plus jeune et guère plus beau que lui, diminuait considérablement son prestige. Quand l'orchestre préluda, Deliard de Beurre voulut s'élancer vers Corise, mais il arriva devant elle à l'instant même où elle filait, entraînée par le comte d'Axen. Il constata avec découragement que le prince valsait à 3 temps merveilleusement, comme seuls les gens de son pays savent valser. Et non seulement il aurait ce soir le succès de situation, de curiosité et d'étiquette auquel il avait droit, mais encore il aurait un succès d'homme également mérité. De cela, le petit Barfleur ne se consolait point. Il courut à madame de Liron qui arrivait, suivie de son mari et de son beau-frère, délicieuse et éclatante dans la robe rose entrevue chez la couturière, et lui demanda cette valse. Mais la petite de Liron désirait avant tout se faire voir au comte d'Axen, dans son bon jour. Et elle savait que les petits hommes ne font pas valoir les femmes qui dansent avec eux. Elle répondit un peu agacée de cet empressement intempestif.
« Mais tout à l'heure, j'arrive, laissez-moi respirer !»
Puis, s'adressant au marquis.
« Alors c'est sérieux ? Votre ours de frère n'est pas là ?»«
Tout ce qu'il y a de plus sérieux. » »«
Et il ne paraîtra pas. » »«
Il ne paraîtra pas. » Elle leva les yeux au plafond.
« Il est là-haut, au-dessus de ce vacarme ?»«
Mais oui. »
« Qu'est-ce que ça lui fait où il est ?» se demanda Corise qui regardait la jeune femme toute fraîche sous son auréole de diamant.
Rien dans cette rondelette poupée aux yeux polissants, aux lignes un peu vulgaires, ne plaisait à Chiffon. Mais en voyant l'enthousiasme excité par la petite de Liron, elle se disait, avec un effort presque douloureux pour comprendre cette situation qu'elle ne s'expliquait point, « Paraît qu'elle est bien jolie. » Le duc d'Aubière s'approcha. « À quoi pensez-vous, mademoiselle Chiffon ? Vous avez l'air d'un petit conspirateur. »
Corise rougit.
« À rien. Tiens, vous avez l'air préoccupé. Je dirais sombre, si ce vilain mot tout noir pouvait s'appliquer à vous. » Et, comme la petite troublée balbutiait une insignifiante réponse, il demanda affectueusement. « Est-ce que vous avez du chagrin ?
Est-ce que quelque chose ne va pas comme vous voulez?
Mais non, je n'ai pas de chagrin, ni rien, dit vivement Chiffon.
Et, voulant faire cesser cet interrogatoire qui, sans qu'elle sût pourquoi, l'embarrassait, elle interrogea à son tour.
L'élection de l'oncle Marc est sûre, c'est pas?
Je le crois, mais il ne paraît pas s'en soucier beaucoup de son élection.
Je l'ai vu ce matin,
et il ne m'en a pas dit trois mots.
Il a l'air d'oublier que c'est dimanche prochain.
Lui aussi, il a l'air préoccupé.
Ah, fit la petite inquiète, et tout de suite elle pensa.
C'est peut-être à cause de Madame de Liron qu'il est préoccupé.
Le colonel remarqua le regard vague de Corise et la petite moue serrée de ses lèvres.
Vous voilà encore partie bien loin d'ici, mademoiselle Chiffon.
Bien loin, dans le pays bleu.
Elle répondit sans bien savoir qu'elle parlait.
Pas si bleu que ça.
Peu à peu, ils s'étaient rapprochés des grandes baies ouvertes sur le jardin. La nuit était orageuse, une chaleur de plomb les enveloppait.
On étouffe là-dedans, fit Chiffon en secouant ses cheveux lourds.
Et elle sortit, suivie de M. d'Aubière.
Tiens, s'écria le duc le nez en l'air, le voilà cet animal de marque.
Il va et vient paisiblement dans sa chambre, sans se douter que nous le voyons d'en bas.
Chiffon regarda et vit la haute silhouette de l'oncle Marc qui se détachait très sombre dans le cadre lumineux de la fenêtre.
« Tiens, oui, le voilà !»
Madame de Liron arrivait dans le jardin au bras de Monsieur Debray. Elle aussi aperçut le vicomte. Elle s'écria gaiement.
« Une bonne farce, ce serait de monter lui dire bonsoir à votre frère. Qu'est-ce que vous en dites ?»«
Mais, répondit le marquis embarrassé, je ne sais pas trop. »«
Si, faisons ça, voulez-vous? Ce sera très drôle !» Montons chez lui en farandole.
Et s'adressant au colonel,
« En êtes-vous, monsieur d'Aubière ?»«
Non, madame, je craindrais que mon ami Marc ne me mît à la porte. »«
Mais moi ?» demanda la jeune femme en souriant.
« Est-ce qu'il me mettrait à la porte aussi ?»
Sans attendre la réponse, elle se tourna vers monsieur Debray.
« Si je montais, dites, tout doucement, par l'escalier de la bibliothèque,
ce serait une bonne farce, hein ?»«
Excellente !» murmura Chiffon d'un ton infiniment impertinent.
« Conduisez-moi, monsieur Debray, voulez-vous » ?»«
Madame, moi, il faut que je m'occupe ici d'un tas de choses, » expliqua le marquis, très embarrassé du rôle que la jeune femme voulait lui faire jouer. « Mais Aubière, que voici, il va vous conduire. »«
Jusqu'à l'escalier, » dit en souriant le duc, qui arrondit son bras.
Corise restait seule. Le beau train, tout svelte dans son uniforme de hussard, descendit le perron.
« Enfin, je puis vous saluer, mademoiselle. »
Chiffon, qui se précipitait pour suivre M. d'Aubière et Mme de Liron, s'arrêta, mécontente d'être gênée dans son mouvement.
« Mais vous m'avez salué déjà, » fit-elle sèchement.
Elle avait parlé un peu haut. Et la silhouette un instant disparue de l'oncle Marc vint au balcon et y demeura immobile.
« Je vous ai salué en entrant, mais... »«
Mais je n'ai pas pu vous complimenter sur votre jolie toilette. »
Corise ne répondant rien, il reprit d'un ton plein de mystère et de sous-entendu bêta.
Après ça, est-ce bien la toilette qui est jolie?
Je ne voudrais pas vous faire un banal compliment, mademoiselle, en vous répétant ce qu'on a dû vous dire 100 fois depuis hier soir, mais vous êtes...
Charmante, interrompit Chiffon en riant.
Oui, c'est convenu, ça.
Et pressée de filer, elle ajouta brusquement.
Et si c'est tout ce que vous avez à me dire?
Interloqué, monsieur de Traine répondit, mais je voudrais aussi vous supplier de m'accorder une valse.
Laquelle?
Celle que vous daignerez me donner, la première, si vous le voulez bien.
La première est au comte d'Axen.
Encore?
Comment encore? Fit Corise agacée. Vous allez compter combien de fois je danse avec celui-ci ou celui-là?
Elle s'arrêta court. Il lui semblait que l'oncle Marc se penchait au-dessus d'eux,
les écoutant. Mais elle n'osa pas, en regardant en l'air, indiquer sa présence.
Le beau train reprit.
La seconde valse, alors?
Elle est à Monsieur d'Aubière. Voulez-vous la quatrième, à partir de maintenant?
Le comte d'Axen arrivait, courant presque.
C'est ma valse, mademoiselle Chiffon.
À la fenêtre, la grande ombre de l'oncle Marc s'agita, inquiète, et Corise pensa.
Je parie que dans ce moment-ci, il a son sourcil fâché.
Mademoiselle, demanda Monsieur de Traine, je voudrais avoir l'honneur d'être présenté à Monseigneur le comte d'Axen.
Chiffon, quittant à regret des yeux la fenêtre, se tourna vers le prince.
« Permettez-vous, monseigneur ?»
Et comme il s'inclinait, elle bafouilla très vite. « Monsieur de Traine,
« Je suis ravi de vous connaître, monseigneur, » dit le comte d'Axel en tendant la main à l'officier. « Nous allons, la semaine prochaine, être camarades de régiment. Je suis autorisé à assister aux manœuvres, et je dois marcher avec vous. » Puis, saisissant Chiffon par la taille. « Où voulez-vous que nous valsions sur ce beau grand perron ? On y entend très bien la musique, et dans les salons, on étouffe. » Elle se laissa faire, n'osant pas résister, mais craignant, sans savoir pourquoi, de déplaire à l'oncle Marc, toujours immobile à son balcon. Lorsque le prince s'arrêta, il dit à Corise, « Je regrette vivement de ne pas voir votre oncle ce soir. »« Il est chez lui, à cause de son deuil, » balbutia-t-elle en regardant furtivement du côté de la fenêtre. « C'est un charmant homme, que j'aime infiniment. Nous nous sommes beaucoup promenés ensemble ces derniers jours, à pied et à cheval. »« Tiens, » pensa la petite étonnée, « il ne me l'a pas dit. Il ne m'a jamais parlé de lui depuis l'autre soir. » Le comte d'Axène reprit. « Monsieur Debray a la plus belle intelligence que je connaisse, et une âme exquise. »« N'est-ce pas, monseigneur ? » cria Chiffon qui avait envie de sauter au cou du prince. « Je serais bien content, continua-t-il, si les manœuvres finissent de façon à me permettre de partir avec lui. »« Partir ? » demanda la petite angoissée. « Partir pour où ? » ?»« Mais il ne vous l'a pas dit ?»« Si, si, » fit-elle voulant savoir, « il m'a dit, à peu près. » « Eh bien, tout de suite après les élections, Monsieur Debray va voyager pendant 2 mois. »«
Ah ?»«
Il veut voir de près bien des misères, se rendre compte de bien des choses. En un mot, il veut et peut faire beaucoup de bien. Votre oncle, Mademoiselle Chiffon, est un de ces rares hommes qui passent leur vie à faire de belles actions, qu'ils cachent comme si c'était des crimes. »«
Oui, je lui ai déjà dit ça, » murmura Corise en se tenant à quatre pour ne pas pleurer.
La pensée que l'oncle Marc allait partir la bouleversait toute. À son retour, s'il était élu, il s'en irait à Paris, où les Bray ne s'installaient qu'au printemps. Elle ne le verrait plus. Plus du tout. À ce moment, le vicomte, penché sur l'appui du balcon, se retourna brusquement vers l'intérieur de sa chambre. Évidemment, quelqu'un venait d'entrer chez lui. « C'est elle, » pensa Chiffon, dont le cœur battit trop vite. Et, comme la valse finissait, elle salua le prince et se faufila à travers les danseurs qui regagnaient leur place. En arrivant dans la bibliothèque, elle grimpa le vieil escalier de chêne qui montait directement à l'appartement du vicomte, décidée à voir, à écouter, à savoir n'importe comment quelque chose de précis. Mais tout à coup, elle s'arrêta découragée. « Non, » fit-elle, « ça serait vilain, et puis, je sais tout ce que je peux savoir. » Un froufrou de tulle et de soie l'avertit que quelqu'un descendait au-dessus d'elle. Dégringolant rapidement les marches, elle se blottit derrière l'escalier. Toute pimpante, Madame de Liron passa à côté d'elle et entra dans le grand salon en criant, pour bien indiquer qu'elle ne cachait pas sa visite.
« Ah mais, c'est qu'il n'était pas content, figurez-vous. C'est tout juste s'il ne s'est pas fâché. »
« Elle ment, » pensa Chiffon. « Il était ravi. Elle dit ça pour ne pas que ça ait l'air. » Et, montant à son tour chez le vicomte, elle ouvrit la porte sans frapper. Assis devant son bureau, la tête appuyée sur son bras replié, l'oncle Marc ne l'entendit pas entrer. D'une voix blanche, très émue, elle demanda rageusement « Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» À la voix de sa nièce, il se leva mécontent. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi ?» Lorsqu'elle vit le pauvre visage bouleversé qui se tournait menaçant vers elle, Chiffon ne sentit plus qu'une immense tendresse pour l'oncle qu'elle aimait tant. Elle oublia tout, répétant, surprise et troublée profondément.
« Tu pleures ? Pourquoi pleures-tu, mon Dieu ? »
Et timidement.
« À cause d'elle, c'est pas ?»
Le vicomte éclata. « Je ne sais pas qui tu appelles, elle, mais je te prie de retourner à tes danses et à tes flirts. Va écouter les compliments de cette brute de traîne et valser dans le jardin avec le comte d'Axène, puisque ça t'amuse. Mais laisse-moi tranquille chez moi. » Elle murmura. « Tranquille ? À pleurer ? À pleurer si ça m'amuse. » Chiffon apercevait dans le cabinet de toilette 2 grandes malles ouvertes. Affolée, elle demanda. « Tu pars donc plus tôt ? » ?»«
Plus tôt que quoi ? Et d'abord, comment sais-tu que je pars ?»«
C'est le comte d'Axène qui... » Il ricana.
« Ah, vous parlez de moi quand vous êtes ensemble ?»«
Oui, il m'a dit que tu vas voyager, faire du bien. » Et comme il ne répondait pas, elle demanda d'une voix tremblée qui disait toutes ses épouvantes.
« Et moi, qu'est-ce que je vais devenir ? Sans la regarder, il répondit d'un ton coupant. « Dame, tu ne penses pas que je peux t'emmener, n'est-ce pas? Ni rester ici pour te servir de bonne ?»«
Oh !» fit douloureusement Chiffon, dont les yeux de Pervenche se voilèrent de larmes. « Comme tu me parles, oncle Marc, comme tu me parles vilainement.
Pourquoi viens-tu me tourmenter comme ça ?»
Elle resta un moment sans répondre. Immobile au milieu de la chambre, toute rose, dans la robe neigeuse qui coulait droite le long de ses hanches, dessinant la ligne si pure de son petit corps jeune et vigoureux. La nappe de cheveux blonds qui flottait autour d'elle, envolée au courant d'air de la fenêtre, lui donnait l'aspect d'une petite fée, d'un petit être bizarre et irréel. Et malgré lui, Marc, qui avait relevé la tête, la regardait avec une expression d'immense tendresse au fond de ses yeux rougis. Trop myope pour voir ce regard, Chiffon demanda après avoir longuement réfléchi.
« Alors, comme ça, d'après ce que m'a dit le prince, tu t'en vas d'ici pour faire des belles actions. »
Il haussa les épaules. La petite reprit.
« Ben moi, je pourrais t'en indiquer une affaire, et pas loin, de belle action. »
Et comme il ne répondait pas, elle murmura dans un faible souffle.
« Ça serait de m'épouser. »
Devenu très pâle, le vicomte marcha vers elle.
« Qu'est-ce que tu as dit ?»«
Tu as très bien entendu. » Il répliqua d'une voix rauque.
« Tu as la plaisanterie féroce, c'est pas drôle. »« La plaisanterie ?» s'écria Chiffon effaré. « Adieu, mais je t'aime plus que tout. Et il y a des instants, il me semble que tu m'aimes aussi plus que le reste. Alors je te dis, épouse-moi. »
Chiffon, fit doucement l'oncle Marc, qui attira la petite dans ses bras.
« Mon Chiffon, oh oui, je t'aime, va. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors tu veux bien ?»
Il la couvrait de baisers sans parler. Elle soupira toute frissonnante.
« Oh, que c'est bon d'être embrassée par toi !»
Puis, éclatant de rire,
« Crois-tu qu'ils vont en faire un nez en bas quand ils sauront ça ?»
L'oncle Marc regardait Chiffon, hésitant encore à la croire à lui. Penché sur son visage, il murmura dans un baiser.
« Ah, petit Chiffon, si tu savais combien j'étais malheureux, et désespéré, et jaloux !»«
Jaloux ? Oh ça, fallait pas !» Et, se serrant éperdument contre lui, elle balbutia câline et tendre.
« Car ça m'étonnerait rudement si je te trompais jamais, toi !»